franceinter.fr. La revue de presse de Camille Revel. Bonjour Camille.
Bonjour. On dit parfois des politiciens qu'ils descendent dans l'arène, mais la politique s'invite aussi sur le ring, tout comme la diplomatie. C'est ce qu'on découvre en lisant le dossier Catchmania de l'Équipe Magazine. Le dossier signé Emmanuel Corcostegui, dédié à Westlemania, le rendez-vous des amateurs de catch à Orlando, en Floride. Les combats de catch, ce sont des combats à grand spectacle, très scénarisés. Et toute ressemblance avec des faits réels n'est absolument pas pure coïncidence. Par exemple, en 2003, la France s'oppose à une intervention en Irak, position peu appréciée outre-Atlantique, et une équipe de catcheurs se forme, nommée La Résistance, en français dans le texte. Ce sont des Québécois, mais peu importe, le symbole est là, ils se font copieusement siffler à chaque combat qu'ils ont tendance à perdre. Voici leur prise favorite. Bonsoir, vous attrapez votre adversaire par le cou et le projetez au sol. La crêpe, aplatissage de l'adversaire, et au revoir, copie plus ou moins sévère de bonsoir. Aujourd'hui, c'est terminé. Le catch s'est dépolitisé, conclut l'article. Le résultat des combats est connu d'avance. Ce festival WrestleMania pour Doug Aficionado, c'est comme le dernier épisode d'une série télé. Le moment où les intrigues se dénouent. Chez nous, pour le dénouement, il faut encore attendre jusqu'au 7 mai.
Et pour ce dernier dimanche avant le premier tour, la campagne fait toujours la une de la presse.
Je ne suis pas d'extrême gauche. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin, le candidat de la France Insoumise est à la une et l'assure, il sera aussi au second tour. Il se dit très content de ne pas avoir fait alliance avec Benoît Hamon. Garçon intéressant et sympathique, dit-il, dont le problème, c'est le PS Jean-Luc Mélenchon, qui promet de supprimer la loi El Khomri et, interrogé sur le Venezuela, se dit prêt à discuter avec le diable, s'il le faut, pour son pays. Peu Meuchot, qui dirige ses états. Lui aussi l'assure. Je sais que je serai au second tour. C'est maintenant François Fillon qui parle dans les colonnes du journal du dimanche. Il promet de gouverner sans rancœur. Je serai le président du redressement national, qui respectera aussi les fonctions de Premier ministre, qu'il ne qualifiera donc pas de collaborateur. Qui vote Le Pen, se demande aussi en une le journal du dimanche, qui se fonde pour répondre sur un sondage IFOP. 60% des électeurs FN votent par rejet des autres partis, 40% par adhésion, nous enseigne cette étude. En 1997, ils étaient 84% à voter par rejet. Sur son site internet, Le Monde, lui, s'interroge sur le casse-tête du vote utile pour les électeurs de gauche, avec par exemple ce couple de Montluçon, Marie-Laure et Patrick, en 34 ans de mariage. Ils ont toujours voté de la même façon, socialiste aux élections nationales, communiste au local, mais cette fois chez eux, la prise de tête dure depuis janvier. Elle vote utile, lui vote choisi. Mais il suffit d'un rien pour changer d'avis, conclut l'article. En 2002, au second tour, un électeur parti pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen entend sur le chemin du bureau de vote une chanson du groupe Zebda, Le bruit et l'odeur, avec un extrait du discours de Jacques Chirac, et dans l'isoloir, il finit par rendre une enveloppe vide.
Une autre rengaine est à la une ce matin.
La chanson de Craon, devenue l'hymne des mutins de la Grande Guerre en chœur, va l'entonner aujourd'hui devant François Hollande pour le centenaire de la bataille du Chemin des Dames, une commémoration. Heure de la reconnaissance, titre l'Ardennais, un échec sanglant, cette bataille, marquée aussi par le début des mutineries, elle fit un nombre de morts toujours imprécis, selon le journal du dimanche, vraisemblablement entre 40 et 50 000 la première semaine, d'après un historien. La présence du chef de l'État pour ce centenaire irrite, certains, nous rapporte l'hebdomadaire, comme cet ancien combattant pour qui on en fait trop sur les fusillés. Le président à Craon, c'est un chiffon rouge. La chanson de Craon aussi agace les anciens combattants du comité national d'entente pour son président, le général Bruno Dary. Les 6 millions de soldats qui se sont battus dans des conditions très difficiles méritent mieux dans notre souvenir collectif. Les descendants des mutins, eux, témoignent dans La Croix, 26 soldats français fusillés en 1917. Parmi eux, Albert Truton, ses los longtemps resté un secret de famille, raconte son petit-neveu, aujourd'hui âgé de 73 ans. Jean Truton, c'est son nom, a signé un appel pour la réhabilitation des fusillés. Sans trop d'espoir, il voudrait aussi voir le nom de son grand-oncle apparaître sur le monument aux morts de Nocé, dans l'Orne où il est né. Et il argumente, ce n'était pas en planqué, il a eu la croix de guerre, il a été blessé à Verdun, il a fait une bêtise, mais d'autres ont fait pire et n'ont pas été fusillés.
Le président turc Erdogan, lui, rêve d'un plébiscite aujourd'hui.
C'est le titre du Parisien. Recep Tayyip Erdogan remportera-t-il son pari, s'interroge Courrier International dans son édition numérique. Les Turcs sont appelés à voter par référendum sur le renforcement des pouvoirs de leur président. Le quotidien quotidien pro-gouvernemental Sabah s'agace. Quand François Hollande est élu avec 52% des voix en France, les opposants trouvent cela tout à fait démocratique. Mais si le oui passe avec le même score en Turquie, ils diront qu'on a volé des urnes, qu'il y a eu des coupures de courant dans les bureaux de vote. Côté français, pour le journal du dimanche, Erdogan joue son va-tout. L'hebdomadaire cite un membre du parti pro-kurde, le HDP, partisan du non, qui dénonce une campagne à deux vitesses, une course entre un avion et une demi-voiture. L'Express consacre sa une à ce référendum avec ces mots « Erdogan menace l'Europe ». Pour l'hebdomadaire, Vincent Huge raconte sa rencontre à Trabzon des fervents admirateurs de Recep Tayyip Erdogan, partisan d'un homme qui a gravi tous les échelons du pouvoir, et l'un d'entre eux lance « Je voterai pour un animal de compagnie pourvu qu'il soit investi par Erdogan ». Ou bien ce septuagénaire qui confie qu'il a eu un pépin de santé, les soins ne lui ont pas coûté une livre alors que du temps de son père il fallait payer. Erdogan remet la Turquie à sa vraie place, dit-il, si les Européens préfèrent les terroristes à notre loyauté. Tant pis pour eux. Un autre reportage aussi dans Politis de Jérémy Berliou à Istanbul, où l'opposition s'inquiète d'une nouvelle vague de violence. Erdogan est capable de tout. Cette peur diffuse, renchérit une autre stambouliote. C'est sa plus grande victoire. Ce dimanche 16 avril est aussi le dimanche de Pâques.
Oui, un dimanche de Pâques sous haute surveillance et endeuillé pour les Coptes.
Sous haute surveillance en France, mais aussi à travers le monde, bien sûr en Égypte. L'hebdomadaire chrétien La Vie publie un reportage auprès des Coptes en colère dans ce pays après le double attentat contre des Église dimanche dernier. La colère comme celle d'une fidèle, Mina, qui se demande aujourd'hui, la police et l'armée surveillent de près nos lieux de culte, où était-il le dimanche des rameaux? Pour le politologue Ziad Akel, le durcissement sécuritaire en Égypte n'est pas la seule solution. Elle reste secondaire, dit-il, à côté du défi du développement et l'éducation. L'hebdomadaire part aussi à la rencontre des chrétiens de Syrie à Alep, Homs ou Maloula, un dossier à retrouver dans les pages de La Vie. Donc, le Parisien lui relate dans ses colonne en entretien avec l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, qui revient sur l'assassinat terroriste du père Hamel en juillet dernier. La douleur reste vive dans la paroisse, dit-il, mais cette paroisse se reconstruit peu à peu. Interrogé sur l'élection, on lui assure être dans une période de réserve, mais il dénonce l'augmentation des normes, sauf sur les fondamentaux, et propose de revisiter les 10 commandements. Ce serait intéressant, dit-il, et il s'agace. Voler, du moment qu'on est en règle avec le fisc, qu'on n'est pas pris, c'est bon. Qui dit Pâques dit aussi chasse aux œufs. C'est la meilleure idée du printemps, nous assure le Huffington Post, qui avance plusieurs raisons. D'abord, c'est du temps de qualité passé en famille. C'est aussi un peu de sport pour les grands et les petits. Alors qu'en France, un enfant sur deux ne bouge pas assez, selon la Fédération française de cardiologie. Donc cachez bien vos œufs. Et s'il fait beau et que la chasse a lieu en extérieur, bien sûr, c'est l'occasion de faire le plein de lumière et pour notre corps de produire plus d'hormones du bonheur, la sérotonine, bien sûr. C'est aussi l'occasion de déguster du chocolat. Nous en achetons 15 000 tonnes chaque année pour Pâques, nous rappelle la Dépêche.
C'était la revue de presse de Camille Revel. Vous avez entendu, Pierre Veil, la chasse aux œufs, c'est aussi du sport. Vous connaissez ce mot-là?
Absolument. Quand j'étais tout petit, il y avait les lapins de Pâques en Alsace. Ils nous apportaient les cadeaux.
Oui, mais il fallait aller les chercher quand même. Ça, oui, vous faisiez du sport, vous ai-je dit.